antenne.
Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Durant les 20 prochaines minutes, vous commentez l'actualité de votre choix. Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont particulièrement marqué ces derniers jours. Vous pouvez évidemment profiter de l'antenne pour nous sensibiliser à des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous. En tout cas, vous choisissez le contenu de l'émission. Vous lancez le débat en direct sur RFI 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, notamment RFI appelle sur l'actualité. Nous en parlions en première partie, les élections législatives en Guinée, voilà un sujet qui ne vous laisse pas indifférent, vous êtes nombreux à nous appeler de Conakry. C'est vrai qu'après plusieurs reports, eh bien ces élections auront lieu le 16 février. Bonjour Lamine.
Bonjour. Vous êtes, bonjour à toute votre équipe.
Merci Lamine, vous êtes à Conakry dans la capitale. Vous contestez la date du 16 février?
Oui, bien sûr, techniquement, cette date n'est pas du tout tenable. Sans oublier le côté économique et financier. Mais d'abord, techniquement, moi, je me pose un certain nombre de questions. Est-ce que la CENI, à ce stade, dispose d'applications, de logiciels pour gérer sa base de données? Est-ce que la CENI a pu détecter des personnes décédées? Est-ce que la CENI a pu éliminer du fichier électoral les 25% d'électeurs fictifs ou en doublon? Et moi, ce sont des questions que je me pose. Oui. Le président de la CENI a déclaré qu'il dispose du matériel, mais est-ce que c'est suffisant? On aura besoin de payer, après tout, ceux-là qui vont travailler pour ces élections.
Oui, il va falloir enrôler les 6 millions d'électeurs et réviser le fichier électoral qui contiendrait plus d'un million d'électeurs suspects selon l'opposition. Vous dites donc que les délais sont trop courts?
C'est trop court, Juan, et ça, vraiment, c'est un peu... C'est incompréhensible. Hein.
Oui. Enfin, ces élections, excusez-moi, à un moment donné, Lamine, il faut bien élire les députés. Ces élections, elles auraient dû se tenir il y a plus d'un an. Donc vous dites qu'il faut reporter la date des législatives.
Bon,
vous dites non,
oui,
mais
c'est une option. C'est une option, mais il faut travailler sérieusement. L'important, c'est de créer les conditions pour la tenue de ces élections. Qu'on reporte ou pas, il faut travailler, c'est ça. Il faut faire en sorte que les conditions soient créées pour aller à ces élections.
Vous restez, Lamine, restez en ligne. Je vous présente Barry, qui est également à Conakry. Barry, qui lui, au contraire, est très confiant. Bonjour Barry.
Bonjour Monsieur Juan Gomez et bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde. Je dis bonjour à mon confrère en face.
Très bien, Lamine, donc qui est en face au téléphone. Barry, pourquoi êtes-vous optimiste?
Parce que aujourd'hui, l'institution en charge de l'organisation des élections, les commissaires se sont réunis et ils ont évalué les circonstances. Et ils ont approuvé cette date comme un accord avec, y compris les représentants de ces partis politiques de l'opposition. Ce qui me donne plus de rassurance est qu'aujourd'hui, les acteurs au moins sont conscients qu'il est important d'aller aux élections. Mais ce que je regrette par contre, c'est que l'opposition a un autre calendrier prioritaire qui est différent de se tenir de ces élections. Parce que notre Assemblée nationale a un mandat dont, le mandat
a expiré il y a plus d'un an, oui.
On ne peut pas aller dans cette insécurité institutionnelle parce qu'il y a beaucoup de possibilités qu'il y ait aussi de glissement dans le calendrier présidentiel de 2020. Et si nous n'avons ni parlement légitime, ni président en cours d'exercice de son mandat légitime. Et comment nous allons pouvoir gérer tout ça? Nous allons rentrer dans une transition et dans un chaos total. Aujourd'hui, il faut que les gens priorisent les élections législatives et arrêter ces marches contre un éventuel troisième mandat qui n'existe nulle part.
Enfin, qui n'existe nulle part. Excusez-moi, vous dites que ça n'existe nulle part, cette éventualité. Elle existe. Il y a eu des consultations organisées par le président de la République en vue d'une éventuelle révision de la Constitution. Il y a eu des propos tenus ici et là, et notamment à New York par le chef de l'État. Il a dit à la diaspora guinéenne qui vit aux États-Unis, préparez-vous à un référendum. Donc voilà, il y a des suspicions. Maintenant, effectivement, Alpha Condé entretient le flou sur une éventuelle réforme de la Constitution. Donc vous dites que l'opposition arrête de manifester et qu'on aille aux législatives.
Monsieur Juan Gomez.
Oui, monsieur Barry.
Je pense que la question de tenue de ce référendum est indiscutable. Mais ce qu'on peut discuter, c'est si le président a l'intention de faire un troisième mandat. Et ce qui n'est pas le cas. Le président, jusqu'à preuve du contraire, à chaque occasion, il rappelle son passé historique et il rappelle que tous les sacrifices sont possibles pour que le pays puisse renouer avec la paix et son esprit démocratique.
Oui. Lamine, alors attendez, Lamine vous écoute. J'imagine qu'il a envie de vous répondre. Lamine.
Oui, j'ai bien envie de répondre à ce monsieur. J'ai l'impression qu'il est sur une autre planète, en tout cas pas en Guinée. Parce que vraiment, il faut être réaliste. Et ce monsieur ne l'est pas. Et je vous assure que, oui, c'est vrai, 16 commissaires sur 17 ont adopté donc cette date. Mais je dis que c'est une date, encore une fois, qui n'est pas du tout réaliste.
Elle n'est pas réaliste, d'accord, ça vous l'avez dit tout à l'heure. Mais concernant l'éventualité d'un référendum, l'éventualité d'une révision de la Constitution, est-ce que vous êtes convaincu que Alpha Condé franchira le pas et annoncera sa volonté de réformer la Constitution, ou au contraire, vous pensez que l'opposition va un peu trop vite en besogne en étant sûr de cette révision?
Les méthodes de l'opposition sont critiquables, mais si rien n'est fait aussi, le président Alpha Condé ira effectivement à cette révision constitutionnelle et finalement, ça va nous conduire vers la catastrophe. Et déjà, la cognée est mise à la racine. Il y a des morts à chaque manifestation, pas plus qu'hier. J'étais intrigué quand moi j'ai croisé les maillots rouges, les brassards rouges. Mmh. Ça m'a vraiment intrigué. J'étais écœuré,
ouais.
J'avais peur.
Ouais. Hier, nouvelle manifestation du Front National pour la défense de la Constitution. Les organisateurs font état de 3 personnes tuées par balle. Et du côté des autorités, on parle d'un jeune homme tué par jet de projectile. On aura l'occasion évidemment de revenir sur la situation en Guinée dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci à tous les deux. Et merci à tous ceux qui nous ont appelés de Guinée pour débattre de cette actualité. Autre sujet qui ne vous laisse pas indifférent, la gratuité de l'école primaire en République démocratique du Congo, c'était l'une des promesses électorales de Félix Tshisekedi. Elle est effective depuis le mois de septembre, donc depuis la rentrée des classes. Bonjour Kamanda.
Oui, bonjour.
Les enseignants sont en colère et vous comprenez, vous, cette colère?
Effectivement, comme vous le savez, aujourd'hui, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire devient de plus en plus difficile. Les enseignants des écoles conventionnées catholiques et protestantes ont arrêté depuis mardi dernier les cours jusqu'à nouvel ordre afin de réclamer justement l'amélioration de leur enveloppe salariale.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, le salaire des enseignants de l'école primaire était pris en charge par les parents. Mais comme l'école est gratuite, les parents ne payent plus et l'État n'a pas prévu d'indemniser les enseignants, en tout cas pas tout de suite. Donc du coup, les enseignants ne sont pas payés depuis le mois de septembre.
Effectivement, donc comme vous le savez, les enseignants touchaient avant $500 quand la prise en charge des enseignants était justement soutenue par les parents. Mais aujourd'hui, les gouvernements proposent un salaire de $210. C'est ce qui pose problème. Ouais. Parce que selon les enseignants, c'est insuffisant comme salaire.
Mmh. Et donc, il y a un manque à gagner réel. Vous comprenez, vous soutenez cette grève alors, Kamanda?
Je ne peux pas soutenir cette grève. Je suis d'ailleurs inquiet, tout simplement parce que, selon moi, l'annonce de la gratuité, de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire a été faite justement à la va-vite, selon moi, tout simplement parce que, comme vous le savez, vous l'avez dit tantôt, que c'était la promesse électorale du président Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi je pense que le président avait annoncé justement à la va-vite la mise en œuvre hein, de la gratuité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Plus ou moins 13 millions d'élèves risquent justement d'assister à une année blanche.
Oui, on n'est pas encore à l'année blanche. Ne commencez pas à agiter le drapeau rouge, mais le gouvernement a annoncé le versement des salaires le plus vite possible. Je crois qu'il y a un audit qui doit être lancé avant la mi-novembre. On est le 15, donc on est déjà mi-novembre. Donc bon, on va suivre ça de près. C'est un sujet en tout cas qui ne vous laisse pas indifférent. Kamanda, merci d'avoir appelé. Que d'autres enseignants nous appellent, évidemment. On a envie d'entendre les enseignants s'exprimer sur cette question. Au Togo, l'archevêque de Lomé demande une suspension de la prochaine élection présidentielle qui doit se tenir entre la mi-février et le début du mois d'août. Voilà un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Beaucoup de Togolais ont réagi. Alors il y a ceux qui soutiennent l'archevêque de Lomé et d'autres qui ont l'impression que l'archevêque prend le pays en otage. Et c'est le cas de Gamal. Bonjour Gamal.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue, nous vous écoutons. Quels sont vos arguments?
D'abord, je veux vous rappeler que c'est pas Lomé, c'est un archevêque émérite.
Oui, l'archevêque émérite de Lomé. Merci de m'avoir repris.
Voilà.
Bon.
Voilà. Un archevêque émérite qui a choisi de faire la politique et qui déclare « Si malheur m'arrive, cela vient du chef de l'État ». Mais je me demande où est donc passée sa foi. Voilà. Même si le prélat n'a pas vocation à faire la politique, au Togo, il s'illustre bien sans être menacé, comme ce fut le cas ailleurs. Donc les déclarations de l'archevêque sont infondées. Hein.
Ouais, mais lorsqu'il dit qu'il faut réaménager la commission électorale, il faut reconstituer la Cour constitutionnelle, il faut un audit de l'ensemble du processus électoral, vous dites que ce n'est pas à un archevêque émérite de tenir de tels propos. Pourtant, il est soutenu par une grande partie de l'opposition.
Non.
Comment ça, non? Vous ne pouvez pas dire non.
Soutenu par quelle grande partie de
Excusez-moi, à un moment donné, il faut faire preuve d'honnêteté, Gamal. L'archevêque a réuni à plusieurs reprises des acteurs politiques de la société civile. Certes, Jean-Pierre Fabre, qui est le principal opposant, n'a jamais répondu à l'invitation de l'archevêque, émérite. Mais sinon, d'autres partis étaient présents aux côtés de l'archevêque.
Oui, mais est-ce qu'il a réussi à les mettre ensemble? C'est ça. C'était son premier combat, c'était son leitmotiv, mettre l'ensemble de l'opposition derrière un candidat unique. Il n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, il trouve dans cet échec, il divague là, c'est devenu une girouette.
Oui.
Voilà. Bon. Monsieur Juan, vous savez, le peuple ne veut plus se tromper. Celui qui aspire à représenter légitimement le peuple, il n'y a qu'un seul panel pour ça, un cadre juridique, les élections. Allons aux élections.
Voilà qui est dit. Gamal, merci d'avoir réagi à ce sujet d'actualité. Bonne journée à Lomé. Je vous le disais en préambule, en début d'émission, on a également des réactions sur cette décision du président américain Donald Trump d'exclure le Cameroun de l'AGOA. Bonjour Willy.
Bonjour Johan, bonjour.
Vous êtes au Cameroun à Yaoundé. L'AGOA, je le rappelle, c'est cette loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne de vendre leurs produits, de vendre ses produits sur le marché américain sans droit de douane. Hein. C'est une façon d'améliorer la compétitivité africaine. Et vous dites que c'est une bonne décision de Donald Trump. Allô? Vous m'entendez,
Allô
Willy?
Allô?
Oui. C'est un dialogue de sourds. On va essayer de vous rappeler dans un instant, Willy. Visiblement, vous ne m'entendez pas. Nous, on vous entend. On règle ça hors antenne avec nos techniciens. Bonjour Moustapha.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auteurs de la Radio Mondiale et à votre formidable équipe.
Merci de vos encouragements. Vous êtes un Ngouri au Tchad et vous souhaitiez revenir sur le débat africain exceptionnel diffusé mercredi sur RFI. Trois chefs d'État autour d'Alain Focal, les présidents du Niger, du Tchad et de la République démocratique du Congo. Alors, durant cette émission, il a surtout été question de la menace djihadiste au Sahel et dans les bassins du lac Tchad. Vous êtes vous-même directement concerné par cette menace puisque vous êtes faite au Tchad. Et vous partagiez le constat dressé par les trois présidents de la République lorsqu'ils ont dénoncé la politique mondiale. Ils ont dit, voilà, la gouvernance politique mondiale n'est pas assez démocratique, on n'écoute pas suffisamment l'Afrique.
Oui, je partage vraiment le point de vue de ces trois chefs d'État, à savoir Bibi Tino et Mamadou Soufri, et tu sais que dire. Pour les affaires africaines, il faut vraiment consulter l'IA. L'IA est une constitution importante qui est sur place, qui est là pour gérer les affaires africaines. C'est normal de passer par l'IA pour les affaires africaines.
Oui.
Sinon, l'intervention de Libye en 2011 n'était pas réfléchie. 60 ans après, les Occidentaux interviennent en Afrique sans consulter l'Union africaine. Ce n'est pas du tout normal. C'est en cela, vraiment, je suis désolé.
Oui.
Et j'attire l'attention de ces grandes puissances. Et cela, il ne faut pas que ça se répète désormais. Il faut vraiment, pour les affaires africaines, il faut consulter l'IA.
Oui, d'autant que plusieurs chefs d'État avaient prévenu, attention, si vous bombardez la Libye, il risque d'y avoir des conséquences. Le président Issoufou a lui-même dit au micro de RFI avoir appris l'intervention de l'OTAN en Libye en écoutant la radio, alors que son pays est frontalier de la Libye. Donc voilà, on ne l'a pas prévenu et on n'a pas voulu tenir compte de la position des chefs d'État à ce moment-là. Merci Moustapha d'avoir appelé de Ngouri au Tchad. Qui avons-nous au standard ? Nous avons Ibrahim, qui est à Dakar, au Sénégal. Bonjour Ibrahim.
Oui, bonjour Juan, bienvenue à Dakar.
Merci de nous accueillir dans la capitale sénégalaise. Vous souhaitez réagir au dernier rapport du Comité des droits de l'homme de l'ONU concernant le Sénégal. Le Sénégal épinglé, puisque dans son rapport, le comité onusien constate que le Conseil constitutionnel sénégalais a pris la décision d'invalider la candidature de deux opposants à la présidentielle de février dernier, alors qu'aucune limite temporelle à la déchéance de leurs droits d'être éligible n'avait été prévu. On parle là, en l'occurrence, de Karim Ouad et de Khalifa Sall. Vous avez l'impression que l'ONU va un peu vite en besogne?
Oui, mais moi je dis que c'est un faux problème que l'ONU pose, parce que nous avons déjà dépassé cette époque. Les élections sont derrière nous, et nous avons, à la Sénégalaise, résolu notre problème. Les deux dont on parle, l'un a été gracié, l'autre a été aussi gracié.
Oui.
On ne comprend pas pourquoi venir remuer la plaie, le couteau dans la plaie, alors que nous avons d'autres objectifs.
Je crois que vous dites remuer le couteau dans la plaie, mais excusez-moi, déjà l'année dernière, le Comité des droits de l'homme de l'ONU avait considéré que le droit de Karim Ouad à un procès équitable avait été violé par la justice sénégalaise. C'est une grave accusation tout de même.
Oui, mais d'accord, c'est une grave accusation, mais personne ici au Sénégal, au lendemain de l'élection, de la première élection de Macky Sall, en 2012, personne ici au Sénégal n'aurait pardonné qu'on n'arrête pas Karim Sall. Karim Ouad. Mm-hmm. Ici, tout le monde, personne. Ah, donc c'était une demande sociale. Donc maintenant que la formule et tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas reprocher au Sénégal, nous avons la meilleure juridiction, l'une des meilleures juridictions sur le continent.
Bon.
Et vous savez très
mais
bien.
Alors, meilleure juridiction du continent, c'est votre avis, Ibrahim. Abdoulaye, lui aussi, est à Dakar. Bonjour Abdoulaye.
Oui, bonjour Juan.
En quelques mots, il nous reste une petite minute. Vous partagez l'analyse d'Ibrahim à l'instant ?
Alors, pas du tout. Moi, je suis tout à fait le contraire de sa pensée, parce que de toute façon, moi, ce que je suggère, c'est que l'ONU, au niveau des Nations Unies, les gens travaillent. On travaille là-bas. C'est ici qu'on ne travaille pas. C'est-à-dire que les Nations Unies le Comité des droits de l'homme doit prendre des sanctions à partir de maintenant. Parce que le Sénégal ne peut pas signer des conventions de droits de l'homme au niveau des Nations Unies, alors que en réalité, il ne l'applique pas. Lorsque le comité de droits de l'homme donne son avis, ses recommandations, le Sénégal ne le respecte pas.
Donc, si je comprends bien, l'ONU a pris une bonne décision, mais vous regrettez qu'il n'y ait pas de sanctions derrière. Abdoulaye, là aussi, le débat est loin d'être clos. On attend évidemment la réaction officielle de Dakar après ce rapport du comité des droits de l'homme des Nations Unies. Lundi, journée spéciale sur RFI, journée spéciale consacrée à la gestion de nos déchets. D'ailleurs, que deviennent vos déchets à vous ? Sont-ils recyclées, quelles initiatives sont prises dans vos pays. Appelez-nous, on a envie de vous entendre, on attend vos témoignages et vos questions.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Dans 10 minutes, priorité santé. Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.